Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui proposent toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Comme chaque samedi, nous passons deux heures ensemble dédiées aux nouvelles technologies et à l'économie numérique. À suivre, notre World Tour direction Moscou. Notre French Tech Tour nous emmènera du côté de Toulouse pour parler d'IoT. Et puis tout à l'heure, la rédaction de Zeronet.com me rejoindra. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet avec Lila Megrawa et notre invité. À quoi ressemblera, Lila, l'homo numericus?
Mais oui. L'homo numericus, à savoir l'homme impacté par le numérique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Calmar. Bonjour.
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 Alors Pierre, vous dirigez iProspect France, qui est une agence digitale. Vous venez de publier L'homme à venir, comment le numérique va nous transformer, tout un programme, publié aux éditions Télémac. C'est un peu un ouvrage qui interroge, au final, comme je le mentionnais plus haut, l'impact du numérique sur l'homme. Avec un grand H. Je vais faire un peu un raccourci.
Oui.
Dans votre livre et vos diverses interventions, vous déclarez que l'homme est amené à disparaître. Qu'est-ce
Exactement.
Que vous voulez dire par là?
Bon, c'est rassurant, ça commence bien.
C'est
déjà.
Une bonne nouvelle.
Voilà.
C'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que on a la possibilité, et c'est unique dans l'histoire, je pense, de la Terre, d'être une espèce consciente qui va agir sur sa propre destinée. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que certainement nous sommes les premiers animaux pensants, en tout cas sur cette planète, à avoir la chance de pouvoir confronter. Et donc, on a quelque chose d'inédit dans l'histoire, qui est qu'on a une modification très rapide, par le numérique, de la façon dont on vit notre vie, mmh. et dont nos enfants vont vivre une vie complètement différente de celle de nos grands-parents. Et le numérique, les plateformes digitales en tête, Google, Facebook, qui développent l'intelligence artificielle, qui développent aujourd'hui beaucoup d'études sur la santé, qui vont nous farcir de nanotechnologies à l'intérieur même de nos corps, eh bien vont modifier complètement l'écosystème de vie.
Justement, Laurent Alexandre, dans son ouvrage « La mort de la mort », qu'on a eu également le...
Oui, c'est vrai.
On a eu le plaisir de le recevoir, déclarer que l'homme qui vivra 200 ans est déjà né. Est-ce que vous partagez cette analyse?
Il y en a qui vont même plus loin, hein, qui parlent même d'immortalité. Hein.
Il a dit 1000 ans, Laurent Alexandre. 1000 ans, je pense pas qu'il soit encore né. 200 ans, c'est très probable. L'immortalité, c'est un vaste sujet philosophique que j'aborde, mais bien entendu, il faut savoir que les patrons de Google aujourd'hui, par exemple, sont obsédés par l'immortalité et que l'ensemble de leurs travaux et de leurs investissements colossaux, en milliards, sont destinés justement à faire en sorte d'inventer dans notre descendance, eh bien, une logique. On aura peut-être même plus de corps, on sera uniquement un esprit téléchargé dans une sorte de super
un énorme gros PC, voilà, c'est
et
ça.
Et voilà, et on sera donc potentiellement immortel.
Finalement, comme l'explique également Michel Houellebecq dans son livre La possibilité du Nil, où il imagine une forme de clone, par exemple, de François Sorel, François Sorel 2, François Sorel 3, François Sorel en 2075.
D'accord.
Non, absolument. Mais la différence, c'est vrai que, donc Houellebecq a écrit un bouquin passionnant sur le sujet. C'est vrai qu'il en reste pourtant un corps qui reste un corps humain. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va tout réinventer. Et que le corps tel qu'on le connaît aujourd'hui, deux bras, deux jambes, un sexe identifié, sera demain extrêmement différent. Et que l'on aura justement l'occasion d'inventer un corps finalement très différent, qui sera peut-être au niveau du sexe par exemple, dans une logique d'évolution radicale. Par exemple, on peut imaginer qu'au lieu d'avoir des hommes et des femmes, j'ai une dizaine, une centaine, un millier de différentes possibilités d'inventer mon propre sexe, et que je puisse donc par mon corps augmenté et bien profiter pleinement et jouir d'une vie totalement différente. Et donc je crois que plaquer trop d'anthropomorphisme justement sur nos descendants est probablement une erreur. Je pense que notre descendant très rapidement, va plus du tout nous ressembler.
D'accord.
Donc ça veut dire que au final cette espèce d'être d'homme réparé, amendé, assisté,
augmenté,
augmenté, qu'est-ce qui lui restera d'humain à cet homme? Qu'est-ce qui le différenciera de robots ou de machines?
Probablement, ce sera une fusion entre l'homme et la machine, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura plus cette distinction. Moi, j'aime bien dire qu'il n'y a plus de différence entre l'artificiel et le naturel. Alors, ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais c'est quoi l'artificiel quand on parle d'intelligence artificielle? L'artificiel, c'est simplement ce qui est produit par l'homme. Mais l'homme lui-même est produit par la nature. Donc ce qui est inventé par l'homme et ce qui s'applique à lui n'est qu'un vaste mouvement naturel. Et donc si on a un descendant dont on est en partie les créateurs, il sera finalement une sorte de mix entre une créature et un créateur qui aura créé son propre écosystème, qui sera en partie biologique et en partie technologique, donc biotechnologique, et sur lequel on aura réellement une vraie logique d'évolution qui pour moi est complètement naturelle. Encore une fois, la notion d'artificiel n'est qu'un point de vue d'être humain. Si on se place à l'extérieur de l'être humain, tout cela n'est qu'un mouvement parfaitement logique.
Vous imaginez cette espèce à la mutante entre l'humain et la machine émerger à horizon du 22e siècle, du 23e, soyons fous.
Certains scientifiques disent aujourd'hui que la première fusion en machine aura lieu dans le 21e siècle, en tout cas. Bon, après, il faudra du temps pour quand même tout ça puisse exister. Après, tout s'accélère. On le voit aujourd'hui, moi, en tant que patron d'agence digitale, c'est avec Prospect. Notre métier, c'est de conseiller nos clients sur l'évolution de la communication. Ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et tous les jours, on voit l'évolution extrêmement rapide de ces moyens de communication et de la façon dont les individus modifient leur comportement. Donc, je pense que tout ça va aller extrêmement vite. Et donc, évidemment, on ne va pas faire Nostradamus, mais à l'horizon 3 siècles, probablement, on aura déjà une espèce qui aura très largement muté, en tout cas en grande partie, sachant que, malheureusement, l'arche de Noé n'emportera pas tout le monde et qu'il y aura certainement aussi des pans entiers de population qui resteront, d'une façon ou d'une autre, à l'état naturel.
Là, encore une fois, il y aura ceux qui auront les moyens de pouvoir vivre cette métamorphose et les autres. On peut imaginer, lorsque tout à l'heure vous parliez des patrons de Google, de Facebook, etc., qui ont énormément d'argent, qui eux peut-être bénéficieront des premiers résultats de ces recherches-là. Mais encore une fois, ça sera réservé peut-être à l'élite, non ?
Peut-être, mais ce n'est pas sûr. C'est intéressant de voir que justement ces grands patrons sont en train d'investir partout pour fournir gratuitement à l'ensemble de l'espèce humaine, c'est en tout cas leur projet, avec des ballons dans la stratosphère, avec des réseaux de satellites, un accès au Wi-Fi, au fameux réseau mondial Internet, y compris avec des devices, d'ailleurs éventuellement des téléphones mobiles, etc. Les moyens à tout être humain d'avoir accès à l'ensemble de ces éléments. Et on peut imaginer demain s'il y a une puce nanotechnologique.
Oui, mais ils font aussi pour le business. Ils font aussi parce que derrière tout ça, il y a la publicité. Enfin, on connaît Google, quoi.
C'est une bonne question, ça. Je pense au contraire qu'ils ne font pas que pour le business. Il y a aussi une vraie logique où tous ces gens, Elon Musk, Tesla Motors, SpaceX, ils se pensent à la conquête spatiale. On a des gens comme Zuckerberg ou Larry Page, Sergey Brin. Tous ces gens-là ont un rêve, c'est de changer le monde. Et en fait, je pense que ce point-là est au fond plus important que l'argent. Et donc, on peut imaginer, en tout cas sans faire d'angélisme, que dans le monde de demain, il pourrait y avoir un super réseau dont l'administration, effectivement, est totalement à inventer, très clairement, qui en tout cas met à mal tous les gouvernements aujourd'hui parce qu'ils sont incapables de réagir par rapport à la prise de pouvoir de ces plateformes digitales, et c'est ça qui angoisse. Mais en tout cas, que l'homme à venir, avec l'intelligence artificielle, inventera un monde extrêmement différent dans lequel le mode de gouvernance et l'économie sont totalement bouleversés.
Est-ce que cet homme à venir peut être heureux? Est-ce que ça amène pas une redéfinition du bonheur? Si cet homme à venir peut accéder à tout, peut réaliser dans la mesure de son corps qui serait bionique, donc non attaquable.
Et peut-être qu'il aurait plus les mêmes sens que ceux qu'on a aujourd'hui.
Voilà. Est-ce qu'il peut être heureux?
Tiens, vous m'avez parlé de Welbeck tout à l'heure, je vais rebondir. On assiste à une formidable extension du domaine de la lutte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est enfermé dans un corps et prisonnier d'un corps et d'un écosystème. Dès lors que vous êtes capable d'élargir complètement votre univers, certes, vous avez donc une liberté augmentée et extrêmement plus importante, et donc vous avez une capacité à exercer votre liberté sur un champ extrêmement vaste. Et donc la satisfaction des pauvres désirs humains aujourd'hui, peut-être qu'on pourra la trouver, mais on va s'en créer plein d'autres. Et d'ailleurs, l'un des points qui est essentiel dès aujourd'hui à prendre en compte, c'est l'extension aussi du domaine du désir. Pendant des siècles, même peut-être plus longtemps que ça, on a cherché à brider le désir, notamment par les grandes religions monothéistes, pour effectivement faire en sorte que l'individu puisse rester dans un cadre social, et puis finalement, la mort du désir, hein, comme le disait Nietzsche, conduit à la mort tout court. Je pense au contraire que quand on va vivre 300 ans, 500 ans, 1000 ans, eh bien au contraire, il faudra sublimer le désir et probablement inventer des formes de désir complètement différentes. Et c'est là où on a, nous, presque à la manière d'un artiste, une capacité incroyable à inventer l'avenir et à prendre notre vrai destin en main.
Et où se situe la liberté dans tout ça ?
Ben justement, c'est une façon d'exercer. Vous savez, la liberté, elle n'existe pas tellement en tant que telle. On est tous dans un système contraint. La liberté, c'est toujours quelque chose de relatif. On est toujours libre dans un système. Là, le système est beaucoup plus vaste. Et donc, on pourra s'inventer une liberté beaucoup plus grande en tant qu'hyper-individualité. Pour cela, il faudra réellement, en revanche, maîtriser son écosystème. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, il faut penser la façon dont nos enfants doivent apprendre à vivre dans ce monde. L'homme préhistorique, lui, il survivait parce qu'il savait flairer le mammouth ou le tigre à dents de sabre. Moi, mes enfants, je leur apprends le code informatique et je leur apprends la philosophie. Parce que dans le monde de demain, et ça devrait être obligatoire dès l'école primaire, dans les deux cas de figure, parce que apprendre à vivre dans cet écosystème hyper numérisé implique que l'on doive apprendre pour ne pas dépendre. Et ça, c'est l'un des enjeux essentiels, et à mon sens, on devrait se focusser beaucoup plus là-dessus.
Et les politiques, dans tout ça, on a l'impression, vous le disiez tout à l'heure, qu'ils sont à des années-lumière, non, de toutes ces révolutions
Ils sont très loin, pour de multiples raisons. Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est que le monde démocratique, tel qu'on le vit aujourd'hui, et qui a été un grand modèle, est complètement à la rue par rapport à cette révolution et cette accélération. Il n'y a qu'à voir, ne serait-ce que le temps législatif. La Commission européenne, ça fait 10 ans qu'elle s'est investie du sujet des cookies, par exemple. Et donc, on aura peut-être une loi un jour, dans encore 10 ans. Sauf que, dès aujourd'hui, on sait, et je le sais bien dans mon métier, que les cookies, déjà, c'est totalement dépassé, bien et sûr. Qu'on a de multiples autres techniques pour suivre un individu
pour le tracer,
sur
etc.
l'ensemble de ses devices, de façon complètement différente. Donc, on voit bien...
Oui, donc les cycles de décision ne sont plus les bons...
Voilà. Ça va beaucoup trop lentement par rapport à la réalité des technologies. Et donc, le système politique lui-même doit être absolument réinventé.
Très bien, passionnant tout ça. Voilà, si ce sujet vous intéresse, Lila, on vous invite à retrouver votre livre.
On vous invite à lire L'Homme à venir, comment le numérique va nous transformer, publié aux éditions Télémac.
Pour le meilleur. Merci.
Merci beaucoup, Pierre Calmar. Bon, ben, on verra, nous, si on vit un petit peu toutes ces révolutions, hein. Ça sera sans doute les générations qui suivent. Vous restez avec nous. La suite de l'atelier numérique sur BFM Business dans un instant. Notre World Tour, French Tech Tour aussi. On ira à Toulouse avec Aurore. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Éric Le Bourlou. Dans un petit quart d'heure, la rédaction de Zeronet.com, bien sûr, pour jeter un œil sur toute l'actualité high-tech de cette semaine, et puis le crash test aussi. Mais auparavant, et avant de retrouver notre French Tech Tour, c'est notre World Tour, direction Moscou-Bangalore, on va s'intéresser à Nouma, qui s'étend à l'international, Aurore Géraud.
Alors, je suis aujourd'hui avec Aviva Markovic, qui est donc responsable développement international au Nouma, et Frédéric Auru, qui est directeur de l'activité internationale. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Atelier.
J'aurais des petites questions pour vous concernant votre développement international. On vous avait eu qu'il y a quelques mois sur la Russie. Vous veniez de mettre en place un nouveau Nouma là-bas. Où en êtes-vous actuellement ?
Donc effectivement, on a lancé il y a quelques mois maintenant Nouma à Moscou, qui était notre première édition d'un Nouma à l'international. En ce moment, on est en pleine phase de sélection des prochaines startups qui font partie du premier batch de l'accélérateur à Moscou. En parallèle de ça, on est en mars, on était déjà à Bangalore pour rencontrer la personne qui allait devenir notre partenaire sur place. L'Inde, pour rappel, est un énorme écosystème startup. C'est plus du tout le l'outsourcing mondial, mais au contraire, les ingénieurs se lancent de plus en plus dans le milieu startup. On a rencontré un espace de coworking qui s'appelle Cobalt, avec qui on a décidé de faire une joint venture, donc sur le même modèle que ce qui s'est passé en Russie avec les partenaires sur place. Et on a créé Nouma Bangalore, qui a été annoncé en juillet. Donc on est également en pleine phase de sélection avec Bangalore. On a reçu 200 candidatures en l'espace de 3 semaines, ce qui montre bien aussi le dynamisme local. Et le lancement serait prévu pour Bangalore en mi-novembre.
Et d'un point de vue culturel, c'est pas trop compliqué de lancer un incubateur, un accélérateur là-bas, de lancer une structure liée aux startups ?
Côté culturel, c'est intéressant. En fait, nous, c'est ce qu'on recherche. On recherche vraiment de la diversité. NUMA doit être avant tout local, soutenu par un acteur international, mais avec une forte sensibilité culturelle. C'est pour ça que on cherche un partenaire local avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, le caractère très inclusif et le fait de se reposer sur une communauté avant tout.
Est-ce que le but aussi, c'est pas de créer un Erasmus des startups ?
Clairement, c'était en tout cas l'une des motivations principales à l'origine de faire des NUMA à l'étranger. C'était parce qu'il y a beaucoup de nos entrepreneurs, enfin on leur dit très vite, il faut que vous pensiez global. Il faut que vous pensiez pas à votre marché français qui est beaucoup trop petit, la compétition est internationale et puis il y a des marchés formidables à aller chercher. Donc l'ambition à l'origine de NUMA à l'international, c'était ça, c'est aider nos entrepreneurs à pouvoir aller à l'étranger facilement et être soutenus dans la continuité, mais aussi faire venir des étrangers chez nous pour quelque part noyer le tropisme français avec une vraie culture internationale, des vrais échanges avec d'autres cultures. Donc c'est, oui, fondamentalement, c'est vraiment cette idée d'Erasmus, d'ailleurs des Startup Exchange programmes qui ont été mis en place par ma collègue Aviva, là, qui a non seulement sur des positions qu'on est en train d'établir pour nous, NUMA en propre, mais également avec beaucoup de partenaires. On est dans plusieurs réseaux, comme Atalanta, qui est un projet européen, dans Google for Entrepreneurs, qui est un projet soutenu par Google, mais qui relie des dizaines de partenaires de par le monde, et puis même par des accélérateurs qu'on rencontre au jour le jour au Canada, dans les pays nordiques, partout. En fait, aujourd'hui, on couvre à peu près, je sais pas, au moins une cinquantaine de destinations possibles.
Vous parlez de nécessité pour les startups de s'internationaliser, une nécessité aussi pour vous en tant que structure française de s'internationaliser ?
Oui, totalement. Ça aussi, c'est l'autre grosse raison pour laquelle on a décidé maintenant, il y a à peu près 6 mois, voire c'était un an dans nos esprits, d'être dans 15 pays dans les 4 ans qui viennent. Ça paraît un peu fou quand on en parle, mais en fait, c'est ambitieux et oui, c'est totalement faisable. Et si on veut le faire, c'est parce qu'en fait, on considère, vous savez, ça fait 15 ans qu'on existe en France. On est créé en l'an 2000, premier espace de coworking, premier accélérateur, etc. Mais aujourd'hui, il y en a peut-être 300 des places de coworking à Paris, en France. Il y a peut-être une centaine d'accélérateurs aussi en France. Ok, on peut inventer de nouveaux services, on peut développer l'écosystème, mais finalement l'écosystème français, il se porte bien, il se développe à fond, et si on veut apporter maintenant quelque chose de nouveau, il faut sortir de ce cercle-là. Donc on a dit, ok, est-ce qu'on peut le faire ailleurs, ce modèle-là, surtout on a un modèle un peu inclusif qui fait travailler à la fois la communauté, les freelances, les experts de tous bords, et puis les startups, et puis aussi les corporates, les grandes entreprises, aussi les institutions publiques. Est-ce qu'on peut exporter ça à l'étranger et apporter cette valeur-là dans d'autres écosystèmes qui sont maturation. La réponse a été clairement oui. On a vu on a des tonnes d'opportunités. Justement, on a décidé qu'on en aurait 15. En réalité, il y en a beaucoup plus que ça, mais on va déjà se donner ça comme objectif. Et puis aussi, surtout, c'est que ces nouveaux territoires pour nos entrepreneurs, c'est des territoires qui sont pas trop regardés. Je veux dire, il y a peu de gens qui vont en Russie parce qu'il y a beaucoup d'a priori autour de ça. Mais en fait, qu'on y regarde bien et qu'on a les bons partenaires, toutes ces barrières disparaissent. L'Inde, c'est juste un Eldorado total, mais bien sûr, il faut pouvoir pénétrer ce marché qui est absolument gigantesque et qui a une culture un peu différente. Et notre ambition, c'est véritablement ça, d'ouvrir de nouveaux marchés pour nos entrepreneurs et aussi d'apprendre énormément de ces endroits locaux qui aujourd'hui qui demain vont faire l'avenir.
C'est ça pour vous la suite, l'Afrique?
Effectivement, on a un pays de plus qui doit s'ouvrir d'ici la fin de l'année en Afrique du Nord, et puis l'Afrique, on y regarde à plusieurs endroits, en réalité aussi en Afrique subsaharienne, mais peut-être pour courant 2016. En fait, globalement, on s'est donné quelques cibles pour l'année à venir 2016, globalement dans les zones qui seront les piliers de notre développement international demain. Donc il y a en Amérique centrale typiquement, en Afrique subsaharienne, ouest et sud, dans l'Asie du Sud-Est, et puis quelque part autour de la zone Europe de l'Est et proche des pays arabes, Moyen-Orient.
Merci Frédéric, merci Aviva.
Et bien Aurore, après le World Tour, place maintenant notre French Tech Tour, et après Moscou, direction maintenant Toulouse.
Oui,
autre accent,
rose.
Voilà, chantonnant. Toulouse qui parie sur l'IoT.
Tout à fait, alors je suis avec Marion Fontana. Marion, bonjour.
Oui, bonjour.
Qui est donc responsable communication à l'IoT Valley, ex-TIC Valley, depuis ce printemps. Alors Marion, on pourrait parler déjà un petit peu ensemble de l'écosystème toulousain.
Oui, bien sûr. Donc Toulouse a effectivement bénéficié de la première vague de labellisation de la French Tech. Il s'est avéré que Toulouse est une ville supra-dynamique, donc que ce soit dans le domaine de l'innovation en général ou dans l'entrepreneuriat, et on a beaucoup de start-up qui se développent et qui naissent de jour en jour, mais aussi des grands groupes qui prennent conscience de pas mal de choses dans l'open innovation, donc qui se lancent aussi dans l'innovation au sens large, et aussi un panel assez important de structures d'accompagnement justement pour accompagner à la fois les grands groupes et les start-up à évoluer et à grandir.
Marion, est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux startups, on va dire, un peu stars à Toulouse, ou alors des boîtes high-tech qui sont bien connues?
Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais effectivement, c'est un peu notre fleuron sur Toulouse, donc qui est spécialisé dans l'Internet des objets et qui est effectivement phare à la fois sur Toulouse et dans notre structure d'accompagnement, qui a effectué une levée de fonds record il y a quelques mois de ça et qui se positionne comme le géant de l'Internet des objets en France et partout dans le monde d'ailleurs.
Alors, vous avez cité son nom ?
Oui, c'est Sigfox.
Ah oui, Sigfox, bien sûr, oui. Bien évidemment, ah oui, qui a même qui veut déployer son réseau d'ailleurs aux États-Unis.
Hein, exactement.
Il y a eu une annonce cette semaine.
Des projets de déploiement aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe également.
Oui, ça c'est vraiment un fleuron français maintenant, Sigfox.
Exactement.
Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu aussi de l'IoT Valley du coup ?
Oui, effectivement. Donc Ludovic Lemond, donc le CEO de Sigfox, justement, a créé il y a quelques années en fait l'IoT Valley. C'est une communauté spécialisée dans l'Internet des objets basée sur Toulouse. Et en fait, c'est un noyau d'entrepreneurs passionnés qui se sont réunis dans un même lieu. C'est des gens qui ont déjà vécu des cycles de création, de financement, voire de rachat, et qui se sont regroupés dans un même lieu pour favoriser l'accélération, la création, le développement d'entreprises dans le domaine des objets connectés ou dans l'innovation au sens large. L'idée, c'est d'additionner les savoirs, structurer les offres, mutualiser des lieux communs, ouvrir le carnet d'adresses respectifs des startups et augmenter en fait les chances de succès dans leur domaine.
Et quel est le type de secteur, enfin, de d'objets connectés qui marche actuellement à Toulouse ?
Alors aujourd'hui, c'est assez varié sur l'Internet des objets. Après, on voit des tendances qui se dessinent, notamment dans la maintenance d'infrastructures au sens large. Donc on a de la gestion de bâtiments, on a de l'économie d'énergie, on a de la maintenance. C'est un sujet assez porté sur l'IoT, parce que ça permet d'améliorer les processus et l'innovation dans ce domaine-là. Et on voit une petite pointe se dessiner aussi dans tout ce qui est l'apprentissage et acculturation de l'objet connecté dès le plus bas âge. Donc on a des startups qui se lancent dans l'apprentissage au niveau maternel et jusqu'au primaire pour apprendre aux petits gamins en fait de développer et de créer des objets connectés et de les acculturer à ce monde-là.
Donc plutôt développement ou plutôt des objets qui permettent, je sais pas, de jouer en apprenant, ou plutôt
c'est
vraiment
un
du développement.
Des deux, ouais. Il y a la partie développement et la partie vraiment hardware où ils fabriquent un objet en fait en assemblant des briques ou en jouant à travers des jeux qui avant nous c'était le mécano ou le parfait petit chimiste, et maintenant effectivement on tend vers des jeux objets connectés et développement.
Et objets connectés, on connaît Toulouse beaucoup pour l'aspect aérien. Est-ce que peut-être on peut imaginer
des passerelles entre les deux?
Ouais.
Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de l'écosystème toulousain en termes d'innovation. On a plusieurs acteurs et structures d'accompagnement, et on a par exemple Airbus, qui est aussi un fleuron régional, qui monte des structures d'accompagnement, notamment pour accueillir des startups et les accompagner et faire ce pont entre produits, services, startups face à leurs problématiques métiers et leurs problématiques internes dans l'aviation, en fait.
Et dans la domotique ?
dans la domotique également. Ce qui est assez génial dans les objets connectés, c'est que ça touche absolument tous les domaines, que ce soit le transport, la santé, l'écologie, la ville de demain. Donc voilà, ça touche absolument tous les domaines et personne n'est épargné et tout le monde d'ailleurs se lance là-dedans parce que ils ont pris conscience qu'il y avait quelque chose à jouer et à innover avec les objets connectés.
Voilà, donc Toulouse, la ville rose, mais aussi la ville connectée, on a bien compris. Merci oui. beaucoup Marion.
Merci Marion.
Pas de souci.
Voilà, et on revient dans un instant hein, pour la suite de cet atelier numérique avec Éric Le Bourlou, la rédaction de Zéronet.com qui nous rejoint. Et puis juste après, ce sera le crash test d'Antoine Cyr que vous attendez. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Voilà, c'est l'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans quelques instants, mais auparavant, direction la rédaction de 01net et puis de 01 Business aussi, avec Pascal Samama qui est avec moi. Bonjour Pascal.
Bonjour François.
Ravi de vous retrouver Pascal dans l'atelier.
Un vrai plaisir.
Chef des infos de BFM Business et on va jeter un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine que vous avez pu lire sur 01 mais aussi sur bfmbusiness.com. On va commencer par Apple. Apple qui, vous le savez, la semaine dernière a annoncé ses nouveaux iPhone, iPad, Apple TV, etc. Mais il y a aussi des nouveautés logicielles avec iOS 9 qui est arrivé, qu'on peut télécharger à partir du moment où on a un iPhone récent depuis quelques jours, Pascal.
À partir de l'iPhone 4S même.
iPhone 4S.
Donc c'est vraiment, oui, même les anciens peuvent y aller.
Un vieil iPhone.
Et alors ce qu'il faut savoir...
Vous avez quoi vous comme iPhone?
Moi j'ai un iPhone 4S, j'ai un iPhone 5C, puis je dois avoir un 6 qui traîne quelque part.
Mais c'est pas possible, vous les collectionnez ou quoi?
Eh oui. J'ai voilà. Mon premier iPod, j'ai mon premier Mac à la maison.
Et donc iOS 9 qui apporte pas mal de nouveautés mine de rien pour tous les utilisateurs en quotidien d'iPhone.
Alors c'est vraiment là, il y a vraiment un coup qui a été mis justement sur cet OS. Enfin, il y a certaines fonctions, il y a plein de nouvelles fonctions qui, oui. Il y en a qui me rappellent Google Now, la fonction vocale, Siri, et Google de l'autre côté. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Siri, donc la fonction vocale, mm-hmm. va remplacer Spotlight. Spotlight, c'est l'instrument de recherche sur lequel...
C'est le moteur de recherche global.
Exactement, voilà, qui fonctionne par des lettres, il faut taper. Là, vous allez pouvoir demander ce que vous voulez, et on va vous le retrouver sur votre appareil.
C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de taper, maintenant on peut
le recharger dicter. Pour recharger, là, si je demande D'accord. François Sorel, on va me ressortir les centaines de mails que vous m'envoyez chaque jour. Donc non, il y a un côté pratique.
C'est pas vrai, n'écoutez pas Pascal, je le harcèle pas par mail, hein. Il faut pas que vous croyiez ça.
Non, pas par mail.
Non.
Donc il y a autre chose, un truc qui me rappelle aussi Google Now, et c'est vrai, c'est la fonction proactive. Mmh. Votre iPhone va se rappeler de ce que vous faites. Il est géolocalisé, il se rappelle exactement à quelle heure vous vous levez le matin, à quelle heure vous prenez votre voiture, à quelle heure, etc. Et il va commencer à vous envoyer des informations. Vous avez l'habitude de vous lever à 6h, 6h30, d'aller courir. Mmh. Et ben tout de suite, il va, dès 6h, 6h30, il va commencer à aller chercher sur iTunes les morceaux que vous avez utilisés, écoutés, pour pouvoir vous les remettre. Il y a vraiment une espèce d'intelligence.
Voilà, d'accord. Mmh.
Une espèce d'intelligence artificielle, plus qu'une assistance. Votre iPhone va commencer à vous écouter et va devenir un vrai, oui. une vraie prolongation
une vraie
de votre
secrétaire
cerveau.
En quelque sorte,
quelque part, bon, quelque part.
Et voilà, donc ça c'est quelques-unes des fonctions.
Alors la fonction petite dernière,
il y en a une autre,
la toute petite dernière. Oui, vous oui. savez que vous avez les applications natives qui s'installent d'elles-mêmes et que des fois vous n'utilisez pas. Il y a la fonction météo, il y a la fonction l'appli sur la montre justement.
Oui, bien
si
sûr,
vous n'avez
la
pas
boussole, des choses comme
la
ça.
La boussole. Et ben maintenant vous pourrez les supprimer si vous ne les utilisez pas avant. D'accord. Vous deviez les supporter, les garder à l'interface, prévoir un dossier des applications que vous n'utilisez pas.
Là, on peut
et
les supprimer.
Fois, vous pouvez les supprimer. C'est pas mal.
Voilà, iOS 9 donc qui est disponible en téléchargement. Si vous avez un iPhone, un iPad, donc à partir de l'iPhone 4S hein, pour l'iPhone. On change de crèmerie, on va dire, puisqu'on va s'intéresser à Amazon. Alors d'un côté, vous avez des iPhones qui sont des produits très haut de gamme, qui coûtent entre 600 et 1000 euros hein, pour les plus chers. Et puis de l'autre côté, vous avez Amazon qui s'apprête à sortir une tablette, mais alors là, qui est carrément aux antipodes du modèle économique d'Apple, qui va coûter quelques dizaines d'euros.
Bah, les technologies valent plus grand-chose, j'ai l'impression. La tablette que va sortir Amazon, qui est annoncée, c'est officiel, va coûter 60 euros. Petit coup de gueule, elle va ne coûter 50 dollars aux États-Unis, 60 euros en Europe.
Oui, la parité c'est euro-dollar pas élégant, et les taxes ouais, passent ouais, par là.
Exactement. Bon, bref, mais sinon, pour 50 dollars ou 60 euros, selon l'endroit où vous allez l'acheter, bah vous aurez une vraie tablette, une tablette tactile, avec de la mémoire, avec avec un processeur quadricœur cadencé à 1,3 GHz, ce qui est pas rien, c'est le même que sur un Samsung Galaxy Tab. Bon, bref, vous avez une vraie tablette pour une soixantaine d'euros. Alors, pour Noël.
Mais c'est quoi l'arnaque, là, en fait? Il y a une arnaque ou pas?
Bah, l'arnaque, c'est pas vraiment une arnaque. La tablette Kindle est utilisée par Amazon pour pouvoir accéder à ses boutiques. Là, pour 50 euros, vous avez le pass pour aller à la boutique.
Oui, c'est-à-dire que
ils auraient pu donner.
Oui, on vous vend ça 50 dollars ou 60 euros en espérant que derrière vous achetiez plein de choses pour rentabiliser encore cette tablette.
C'est exactement c'est ça. C'est exactement ça. Ils auraient pu l'offrir ou faire un abonnement de 2 euros par mois, vu que de toute façon c'est un support commercial et ça personne ne le conteste. Et surtout aux États-Unis, alors là vous vous étonnez pour une tablette à 60 euros. Pour Noël, ils préparent un truc encore plus fou. Amazon, ils préparent le pack de 6 tablettes à offrir.
6 tablettes.
6 tablettes dans un pack, comme un pack de lait ou un pack de bière. Ouais. Vous avez 6 tablettes. Et vous payez ça combien? 250 dollars aux États-Unis. Vous aurez un pack que vous allez voir des potes un soir pour une soirée. Bah, plutôt que de ramener des bières, vous pourrez ramener vos tablettes pour faire des jeux en ligne, pour pouvoir lire des romans,
d'accord,
etc.
Ouais, ça peut être sympa. En tout cas,
c'est moins cher qu'un iPad mini, hein.
Ah oui.
On parlait des différences de prix.
Mais parce que même le pack à 250 dollars, pour 250 dollars, on n'a même pas un iPad mini.
Non.
Donc,
pas
voilà.
Encore.
Alors, bien sûr, on n'a pas la finesse d'un iPad, on n'a pas peut-être la puissance ou la qualité de l'appareil photo ou de l'écran, mais malgré tout, en tout cas pour des enfants, ça peut être un cadeau
sympa. Pour des enfants, pour des gens qui démarrent, bref, c'est la tablette jetable.
Exactement, même si c'est pas très écolo tout ça.
Hein, ça l'est pas du tout.
On va enchaîner avec cette appli Apple qui est quand même assez étonnante, qui incite les utilisateurs d'Android à passer du côté obscur ou alors illuminé de la force, du côté de chez Apple. Voilà,
c'est exactement. Ça. Alors Apple a balancé une appli sur le magasin Android, c'est ultra gonflé, personne n'aurait osé faire ça.
Ouais.
Est-ce que Auchan va mettre des pubs chez Carrefour et en disant venez chez nous, c'est moins cher?
Cela dit, il y a la pub comparative parfois.
Il y a la pub comparative. Ouais, alors là, Apple a été un peu plus loin, ils ont déposé sur le magasin Android, le magasin de Google, donc une appli qui s'appelle Move to iOS et qui gère totalement, si vous avez un Galaxy, n'importe quel appareil sous Android, qui va gérer le transfert de toutes vos informations de l'espace Android à l'espace iOS, tout automatiquement. C'est un peu vache parce que Android ne sélectionne pas, ne valide pas les applications qu'il y a sur son store. Je ne sais pas si Apple, qui valide les siennes, aurait accepté que Google en fasse de même.
Bah là maintenant ils vont être obligés.
Ah ils vont être obligés, sinon c'est pas fair play.
C'est pas fair play.
C'est pas fair play.
Mais je trouve que c'est d'ailleurs une stratégie assez étonnante de la part d'Apple qui devient presque agressive pour avoir de nouveaux clients. Parce que ça c'est presque agressif finalement. C'est le fait de dire écoutez, voilà, le tabou de changer d'appareil ou d'univers n'est plus un tabou justement grâce
exactement
à cette appli, vous allez pouvoir le faire facilement. C'est assez gonflé de la part d'Apple.
C'est surtout agressif parce qu'avant, Apple se distinguait à l'époque de Steve Jobs, on va pas revenir là-dessus, c'était quand même il y a assez longtemps, par l'innovation. Apple n'avait pas besoin d'être concurrent des autres ou d'attaquer les autres sur leur terrain parce qu'ils se faisaient remarquer en innovant. Là, on se rend compte qu'il y a un petit souci et qu'ils vont sur les grands marchés, les marchés de masse, la téléphonie, les tablettes, etc. Et qu'ils y vont vraiment
ouais,
en puissance.
En puissance. Allez, on va parler de taxes maintenant, ça faisait longtemps, hein, Pascal. Eh bien voilà, Airbnb, Blablacar, Uberpop, etc. Eh bien, peut-être bientôt taxés. Le Sénat, en tout cas, y pense.
Alors, c'est pas, pour l'instant, c'est pas les grands groupes qui vont être taxés, mais ceux qui utilisent ces grands groupes. Quand on utilise sa voiture pour gagner un peu de sous en faisant du covoiturage, quand on utilise Airbnb pour sous-louer ou louer son appartement,
allez,
on gagne de l'argent
taxe.
Et souvent, on le déclare pas.
Et, oui.
Et là, le Sénat a l'intention de demander à ces grands opérateurs de l'Internet de leur donner le fichier de leurs clients et les sommes qu'elles ont gagnées jusqu'à 5000 euros par mois. À partir de 5000 euros par an, elles vont pouvoir être taxées.
D'accord. Bon. Ah oui, donc en dessous de 5000 euros de revenus,
on passe à travers.
Mais au-dessus de 5000
annuel.
Annuel.
Ce qui fait pas grand chose, bah en
non,
fait,
ça hein, fait quoi,
dans l'année.
Euros, ça fait 400 euros par an.
Exactement.
Par mois, pardon.
Oui, pas grand chose, mais, 500 euros, c'est environ le RSA, c'est un petit revenu, donc, il n'y a pas de raison.
Effectivement, un mot sur Blablacar aussi. On l'évoquait il y a un instant, Blablacar qui s'internationalise, qui devient véritablement maintenant une boîte incroyable, qui est la première licorne française.
Alors, faut expliquer ce que c'est qu'une licorne. C'est ces entreprises, ces startups qui atteignent un niveau de valorisation de 1 milliard au moins. Et là, c'est la première française. Alors, il y a Criteo qui est un peu particulière, mais Blablacar, c'est vraiment l'application, le service grand public global, comme disent les Américains, qui a été développé, mais qui s'exporte partout dans le monde et qui devient vraiment une licorne. C'est chapeau. Ce serait bien qu'il y en ait plein d'autres maintenant.
Bon, comment révolutionner le fret africain avec des drones maintenant, Pascal ?
Alors là, c'est l'architecte, c'est une histoire assez impressionnante. C'est Norman Foster, c'est l'architecte, un célèbre architecte. Il a notamment conçu le viaduc de Millau.
Qui est un ouvrage sublimissime.
Magnifique, magnifique, tant technique que architectural. Alors lui, son projet maintenant, c'est il est parti au Rwanda. Il a négocié avec les autorités du Rwanda pour avoir des permis de vol. Et ce qu'il veut faire, c'est des avions, des drones cargo. Il est en train de bâtir un port de drones cargo qui va s'installer sur les rives du lac Kivu, qui est un gigantesque lac qui partage ses frontières avec plusieurs pays d'Afrique, où il y a beaucoup d'échanges humanitaires, d'échanges commerciaux. Alors là, ils vont monter une flotte de drones qui va desservir toutes ces régions, les régions les plus isolées. D'abord, en faisant de l'humanitaire, ils vont livrer des médicaments et de la nourriture.
Donc les drones décolleraient des cargos pour aller...
Les drones sont des cargos.
Ah oui.
Ah, c'est des drones très particuliers parce qu'il a pas seulement conçu le port, il a conçu de nouveaux drones. Ils vont faire entre 3 et 6 mètres d'envergure. Ah oui. Ils vont pouvoir porter des charges entre 2 et 10 kilos pour l'instant.
Incroyable.
Faire des trajets jusqu'à une centaine de kilomètres d'abord. On prévoit de faire plusieurs centaines de kilomètres dans les 10 ans qui viennent. Et ça va devenir le transport alternatif en Afrique. Il a l'intention de développer ça dans toute l'Afrique.
Quel beau projet.
Ah oui, c'est magnifique. C'est incroyable. Pays africains suivent. Et puis, c'est beaucoup moins cher que tous les autres moyens de transport qu'on peut avoir en Afrique.
On va parler de Russie maintenant pour terminer, Pascal. Comment la Russie cyberespionne le monde depuis 7 ans?
Alors, bon, vous connaissiez, vous saviez que les Américains sur Internet étaient des méchants, les Russes sont des méchants, les Européens sont des méchants, et ben les Russes aussi, les Russes espionnent la planète entière avec des outils qu'ils ont balancés, des malwares. Alors, c'est des outils de pirates qu'on installe de façon un petit peu inconsciente ou inconsidérée sur un ordinateur.
Oui, c'est invisible, on installe un petit logiciel qui nous plaît, et puis dedans, il y a un malware.
Et alors, derrière un tas de malwares dont on a pu parler sur 01net, MiniDuke, Cosmic Duke, des choses qui ont l'air de fois rien, des petites choses sans importance, ben en fait, derrière, il y a le gouvernement russe qui lance des malwares. Il y a vraiment une guerre de l'Internet qui se passe au niveau mondial. Alors, ça se passe par des malwares, ça se passe par du piratage, mais là, on se rend compte que la Russie est entrée dans le jeu, ils sont rentrés depuis 7 ans. Enfin, ils font des choses extraordinaires. S'ils mettaient leur intelligence et tous ces pays-là technologiques à développer des start-up et des idées.
Ouais, ça serait formidable.
Ce serait formidable.
Mais bon, c'est pas le cas.
C'est pas le cas. Pas encore, en tout cas.
Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Pascal.
Merci, François.
Chef des infos chez BFM Business. Merci beaucoup, Pascal Samama. Et on va terminer cet atelier numérique dans un instant. Avec, bien sûr, le crash test d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, ce sera le crash test avec Antoine. Mais auparavant, notre alphabet du numérique, vous le savez, c'est le rendez-vous de Lila Megrawa. Et cette semaine, Lila, on va s'intéresser à la net étiquette. Ou en tout cas, ce qu'il en reste, Lila.
Mais oui, François, je vais vous parler de net étiquette, ou plutôt ce qu'il en reste, puisqu'on pourrait dire comment... à l'heure de l'information, à temps réel, des centaines de mails adressés et à traiter, à l'heure de la curation, de la transmission de liens, de l'info-obésité, du commentaire élevé au rang d'info, y a-t-il encore la place, je dirais même le temps, d'être poli ? En 1995, on a une certaine Sally Hambridge qui officiait chez IBM à l'époque et qui s'était penchée sur le sujet pour concevoir une espèce de contrat social du numérique qui constituait un guide des bonnes manières, la netiquette. 1995, vous imaginez le florilège de vérité ou plutôt préceptes éculés. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. Ne saturez pas le réseau en vous connectant sur des sites pour lesquels vous n'avez que peu d'intérêt. Coucou, Minute Buzz,
BuzzFeed et autres 9gag. Deuxième citation. Envoyer du courrier électronique à un correspondant peut aussi lui coûter en termes de bande passante, espace disque ou ressources machine. Coucou ADSL fibre optique. Ou encore, il vaut mieux envoyer de courts courriers pour chaque sujet qu'un long message contenant plusieurs sujets. Coucou, monde du travail, première édition. Et enfin, si vous divulguez dans un groupe une partie d'un courrier personnel, vous devriez d'abord en demander la permission à votre correspondant. Coucou, monde du travail, deuxième édition. Autant dire que la netiquette est quelque peu à la ramasse. La réponse sera-t-elle ou serait-elle dans les algorithmes ? Parmi tous ces petits outils numériques qui prétendent vous assister à être plus poli, élégant sur Internet, vous avez l'application Crystalnose qui propose tout simplement une forme de, non pas de correction orthographique, même si on peut considérer que l'orthographe est une forme de politesse, bien oubliée aujourd'hui, mais Crystalnose propose donc une correction comportementale, à savoir que lorsque vous écrivez un mail, donc à partir du nom de votre destinataire, Crystalnose va scanner sur le net l'expérience de votre interlocuteur et établir un profil type. Et en fait, selon ce profil type, va vous suggérer le ton de vos mails, à savoir, est-ce que cette personne va préférer des phrases courtes ou longues ? Est-ce que vous entretenez aujourd'hui une relation suffisamment proche pour justifier d'un mail au langage familier ou soutenu? Elle va vous proposer certaines formules de politesse. Bref, Crystalnose prétend corriger votre comportement dans vos mails. Alors, au final, c'est un peu le chat qui se mord la queue, puisque c'est le numérique qui prétend répondre à une problématique, à un problème causé par le numérique.
Merci beaucoup Lila, et place donc maintenant à notre crash test dans cet atelier numérique sur BFM Business. Mon cher Antoine, le point de départ de ce crash test aujourd'hui est un mot très à la mode.
Oui.
Il s'agit du mot hype.
C'est le mot hype. Donc vous êtes hype François, oui. Nos auditeurs sont hype, tout le monde a envie d'être hype, mais pourquoi ? Alors la définition du hype, on la trouve par exemple sur un site qui est programme-tv.net.
Ah ouais.
Sur lequel Tiens. J'ai trouvé un bon article sur le hype. Qui nous rappelle que c'est un phénomène facile à identifier, mais difficile à analyser. Ils sont allés chercher, par exemple, Word Reference, qui donne une définition de hype qui est hyper-médiatisation. Donc le hype, ce serait quelque chose d'hyper-médiatisé.
D'accord.
Mais c'est pas
Je suis moyennement convaincu. Hein.
Sur Urban Dictionary, il y a quand quelqu'un est excité à propos de quelque chose. Donc le hype, ce serait ce qui suscite l'excitation, ce qui suscite l'enthousiasme, l'emballement, etc.
Ouais, un geek qui voit un nouveau téléphone, par exemple.
Par exemple. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le hype, c'est ce qui suscite, je dirais pas tellement l'emballement, mais l'engouement. C'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup une appétence. Être hype, c'est être celui dont on a envie, être la chose dont les gens ont envie, être la chose qui incarne le sommet du désir, mais pas
un idéal.
Mais pas, oui, oh, c'est peut-être un. C'est peut-être un bien grand mot. Et alors là, l'exemple qui est donné par le site programme-tv.net est assez intéressant puisque c'est celui des sandales Birkenstock. Donc les sandales ouais. Birkenstock, c'est effectivement, est-ce que c'est quelque chose de beau
C'est plutôt de la mode.
On
est d'accord.
Justement, il y a une sorte de hypitude.
Oui,
donc
oui.
Hype, ça s'écrit H-Y-P-E. Il y a une sorte de hypitude qui s'est développée autour de cette marque de sandales Birkenstock parce qu'à un moment, d'un seul coup, malgré leur esthétique
moyenne,
voilà, pas non plus, je veux pas.
Mais c'est des sandales, quoi.
C'est des sandales. D'un seul coup, voilà, il fallait avoir des Birkenstock. Alors, il y a aussi une marque américaine qui s'appelle Supreme, qui elle crée le hype en faisant des produits qui sont des produits édités en quantité limitée. Donc c'est une autre façon de créer le hype. Alors évidemment, en France, il y a un magasin qui est connu comme étant le magasin du hype, c'est Colette par exemple.
Ah bah oui, bien sûr.
Vous êtes chez Colette, d'un seul coup, vous devenez hype. Alors il faut aussi dire que le hype ou la hype, ça peut se décliner de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut être hype et on peut dire aussi qu'il y a une hype qui existe. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quoi cette hype au sujet du dernier concert de François Sorel, par exemple.
Oui, d'accord.
Voilà.
Oui.
Bon, c'était un exemple pris tout à fait.
C'était le dernier, mais vraiment au sens propre, quoi. Il n'y aura plus.
Donc le hype, en gros, c'est quand même un synonyme de branché, de branchitude, etc. Et alors, figurez-vous qu'il y a quand même des Anglais qui ont été malins parce que eux, ils ont créé un site qui s'appelle Just Hype.
Just Hype.
Just Hype. Et donc, leurs produits sont signés Hype. Et évidemment, il peut y avoir pas mal de gens qui pensent qu'en achetant des produits qui sont signés Hype, on va être Hype.
Ben oui. Voilà. Est-ce que ça marche, tiens?
Alors, je ne sais pas. En tout cas, on y trouve beaucoup de coques d'iPhone sur lesquelles il y a marqué Hype. Il y en a avec des roses, il y en a avec des fleurs, etc. On trouve des t-shirts sur lesquels il y a marqué Hype. Donc, si vous voulez avoir un t-shirt sur lequel il y a écrit Hype, est-ce que vous serez vraiment à la mode parce que vous aurez écrit Hype sur votre t-shirt?
Si on a des Birkenstock plus le t-shirt, plus on est bon là, non?
Ça peut être bon. Et puis alors,
qu'est-ce que vous avez comme chaussures aujourd'hui?
Je suis pas venu en Birkenstock.
Enfin, cela dit, la météo n'est pas propice aux Birkenstock en ce moment, hein,
vous l'avez dit. Et puis, il y a le caleçon Hype aussi. Ah bah oui. Hein, donc le caleçon Hype,
vous connaissez le caleçon long.
Il est en solde à 12,50 € puisque c'est un site britannique. Voilà.
D'accord. Et donc il est quoi? Il est très coloré.
Il est très coloré, des petites fleurs, etc.
Ok.
Alors Hype, on pourrait se demander quelle est l'utilisation de Hype dans l'univers des technos. Et en réalité, il y a un logiciel qui s'appelle Hype aussi, qui est le logiciel de la société Tumult, et qui est un logiciel qui permet de faire des animations. En fait, c'est une sorte d'outil de création d'animation. Et donc, il s'appelle Hype. Et puis alors, on a vu fleurir dans les cours de management chez les gens qui parlent des nouvelles technos, on a vu apparaître ce qu'on appelle la hype curve, la courbe du hype.
La courbe du hype.
Et alors là, c'est très intéressant parce que la courbe du hype, c'est compliqué de décrire une courbe à la radio, mais je vais essayer. C'est une courbe qui monte très très fort. Vous me suivez? Au début, ça monte très très fort.
Voilà. Donc il y a un pic.
Il y a un pic. Là, ça redescend très fort.
Pas au niveau du départ.
Pas tout à fait au niveau du départ, bien vu. Et en fait, après, ça redémarre, mais ça redémarre beaucoup moins, voilà, beaucoup plus poussivement.
D'accord.
Que ça n'avait commencé au moment de l'emballement. Et cette hype curve, cette courbe du hype, c'est en fait la courbe qui vous donne ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer avec les nouvelles technologies. Donc, par exemple, au début, vous avez toutes les technologies qui apparaissent, qui révolutionnent le monde qu'on connaît aujourd'hui. La réalité augmentée, les imprimantes 3D.
Les objets connectés,
j'imagine. Les objets connectés, les véhicules autonomes.
Oui.
Tout ça, ça fait... C'est vraiment dans la première partie de la hype.
Oui, donc il y a le premier pic.
Donc d'un seul coup, tous ces objets deviennent vraiment très 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 à la mode. Tout le monde s'y intéresse. Ce sont les sujets dont tout le monde parle. Le sujet qui est en haut de la hype curve au moment où ça change, au moment où ça bascule, c'est d'ailleurs l'internet des objets. C'est assez intéressant.
Ah oui.
C'est le moment où il commence à y avoir une sorte d'hésitation entre satisfaction, envie et puis déception. Et puis ensuite, alors là,
la chute.
C'est la chute. Voilà. Alors par exemple le cloud computing hybride, d'un seul coup on comprend qu'il n'a pas suscité un enthousiasme.
Le cloud computing hybride, c'est vrai que c'est un peu voilà. C'est violent.
Bah oui, mais maintenant on est là quoi. Voilà. Les technologies NFC sont aussi du mauvais côté de la hype curve, voilà. Et puis d'un seul coup, on a une remontée de la hype curve avec notamment la réalité virtuelle avec aussi toutes tous les objets de création d'énergie à partir des gestes. Enfin bon, on a la hype curve qui remonte. Voilà. Donc le sujet au fond, si vous voulez vraiment être très hype, quand on vous parle d'une innovation, vous vous demandez de quel côté cette innovation est de la hype curve. Voilà.
Mais c'est hyper intéressant cette hype curve.
Absolument.
Merci Antoine. Et bien voilà, c'est avec ce crash test que se conclut cet atelier numérique. Vous êtes à où à la hype curve?
Oh, moi!
Alors, vous avez monté le pic, vous êtes un petit peu redescendu, et là, vous remontez de manière naturelle.
Voilà, exactement, en chasse-neige. Parce que j'ai pas le télésiège, donc je remonte comme je peux.
Antoine Sierre, merci. Voilà, cet atelier est terminé. Merci d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On sera là le week-end prochain, bien sûr, chaque samedi, l'atelier numérique, 16h-18h. Portez-vous bien! Salut à tous.